Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous voilà à nouveau donc ce mercredi dans Lectures en liberté pour la suite du roman de Franck Bouys, Grossir le ciel. Gus s'avança sur la route par laquelle le Moïse était parti la veille écarter les congères sur son passage. Ce n'était pas qu'il s'en faisait pour lui. Un type malin comme ça devait avoir plus d'une solution dans son sac pour se tirer d'affaire. Et c'était ce qu'il avait fait parce qu'il n'y avait aucun corps gisant dans le fossé. De toute façon, ce qui aurait pu lui arriver, c'était son histoire, pas celle de Gus. Personne ne lui avait demandé de venir. On se renseigne avant de mettre les pieds quelque part, et ce n'était visiblement pas ce qu'avait fait le suceur de Bible. Une fois parvenu au croisement du chemin du Brac qui menait chez Abel, Gus remarqua des traces de pneus, presque aussi larges que celles de son tracteur et avec presque autant de crampons sur la gomme. Le véhicule était monté jusque-là sans patiner, puis était reparti, avec probablement le défenseur des évangiles à son bord. Si c'était Dieu qui conduisait en personne, il s'était sacrement équipé depuis la nuit des temps, pensa Gus. Les traces étaient gelées, ce qui semblait attester que le sauvetage avait eu lieu depuis un bon moment et que tout ce petit monde devait à coup sûr être en train de se réchauffer autour d'une prière à Saint-Jean, quelque chose dans ce goût-là. Puis Gus regarda la ferme d'Abel couchée dans la combe en contrebas. Il n'y avait pas un bruit pour contredire sa réflexion. Une visite s'imposait. Gus avait deux choses à demander. La première concernait les traces de pieds nus relevées dans la neige, et la seconde, la visite de l'évangéliste. En arrivant chez Abel, Gus perçut un bruit de moteur provenant de derrière la maison. Mars était dans ses pattes et n'arrêtait pas de renifler dans le vent, comme quand quelque chose lui tracassait le flair. Gus fit le tour du bâtiment. Quand il parvint de l'autre côté, Abel était bien là, dos à lui, occupé à balancer des betteraves dans la trémie rouillée de son broyeur. C'est un fait connu de tous les paysans que les vaches adorent les betteraves mélangées au foin. Ça leur met de la graisse sur l'échine pour supporter le froid. Gus observa Abel quelques instants penché au-dessus de sa brouette pour saisir une forme tubéreuse parmi d'autres empilées avant de l'envoyer dans le broyeur à la manière d'un demi de mêlée. La machine faisait un sacré boucan, surtout lorsqu'une grosse betterave tombait dans la trémie et que le moteur se mettait à patiner. Gus cria pour se faire entendre et Abel se retourna brusquement, tout surpris, laissant les couteaux du broyeur tourner dans le vide. Bah, « Qu'est-ce que tu fous là ?» demanda Abel, apparemment pas enchanté de la présence de Gus sur son territoire. « J'ai quelque chose à te demander. » Les deux hommes criaient comme s'ils avaient été positionnés chacun d'un côté d'un précipice. Bah, « T'en as des choses à me demander en ce moment. Bah, »« C'est pas si souvent. » »« Tout de suite, un peu trop à mon goût. » « Je repasserai, si tu veux. Je vois que tu es occupé. »« Vas-y, crache le morceau, maintenant que t'es là. »« T'as pas vu un type hier soir ?»«
Ben si. »«
Il paraît même que c'est toi qui me l'as envoyé, à ce qu'il m'a raconté. »«
Ben, je savais pas comment faire pour qu'il rentre chez lui, alors comme tu as le téléphone, toi... »«
Ouais. »«
Si jamais ça se reproduit, tu dis rien. Je ne suis pas le bon samaritain.
Bah, qu'est-ce que tu as fait de lui ?
Bah, j'avais vraiment pas le choix. Je l'ai laissé téléphoner.
Bon, et quelqu'un est venu le chercher ?
Bah, je sais pas. Et je m'en contrefous.
Comment ça, tu sais pas ?
Il m'a demandé s'il pouvait attendre au chaud et je suis peut-être un ours, mais je suis pas pour autant un monstre.
J'ai dit oui,
mais dans la grange. Vu que j'avais pas terminé de faire tomber des bottes de foin depuis la barge pour nourrir mes bêtes. Sauf que pendant le temps que je m'éreintais, ce couillon-là, il a voulu me vendre son dieu, alors je lui ai dit qu'il ferait mieux de reprendre le chemin dans l'autre sens et de monter attendre ses collègues à la route et que c'était plus négociable. Il avait qu'à rester à sa place, je lui demandais pas plus.
Ben, c'est visiblement ce qu'il a fait, j'ai vu des traces de pneus un peu plus haut.
Tu me connais, je sais être persuasif quand je veux.
Sûr.
T'as ton explication. Ce qui me chiffonne, c'est que t'es pourtant pas homme à te soucier de ce genre de type, ni d'aucun, à ma connaissance. Qu'est-ce qui t'arrive ?
Demanda Abel, suspicieux.
Mettons que je m'en serais voulu s'il avait gelé dans le fossé. Personne lui a demandé de venir.
T'as raison, mais quand même, c'est pas une attitude bien charitable.
Je trouve que tu réfléchis beaucoup ces temps-ci et que ça te rend pas forcément service.
Tu voudrais pas débrancher ta machine, on s'entendrait mieux à causer.
Ben pourquoi, t'as pas fini ?
Non, justement, j'ai autre chose à te demander.
Là-dessus, Abel entra dans la cave pour débrancher le fil électrique qui alimentait le moteur. Les couteaux continuèrent à tourner dans le vide un moment, puis le mouvement se ralentit, et ils finirent par s'arrêter à l'instant où Abel ressortait.
« Bon, qu'est-ce que t'as encore besoin de savoir ?»«
J'ai vu un truc bizarre, hier, dans la forêt. »
Ben, « ce qui est bizarre tout de suite, c'est ton chien, on le dirait tout peureux. »
Justement, tu vas comprendre pourquoi il est dans cet état. Accouche, j'ai encore du travail.
Hier, je suis allé finir de réparer la clôture du pré des Doges, juste en dessous de chez toi.
Je connais.
Je remballais mon matériel quand j'ai entendu Mars qui aboyait dans la forêt comme un perdu.
Ben, il en avait après un lapin ou un renard, j'imagine.
C'est ce que j'ai supposé, sur le moment. Mais cette bête, je l'entendais qui s'énervait de plus en plus, alors je me suis approché. Et Mars, il est sorti du bois, comme s'il avait un troupeau de tiques accrochés au cul en train de lui pomper le sang.
Gus raconta l'histoire à Abel, jusqu'aux petites traces qui se dirigeaient vers la ferme de son voisin. En égrenant son récit, sans renoncer au moindre détail, il lui sembla voir une ride se creuser juste au-dessus du nez d'Abel, celle qui apparaît quand on a un souci et qui finit par ne plus se refermer quand on en a trop.
Gus se dit qu'il avait réveillé de l'intérêt chez Abel, parce que ce dernier n'avait plus l'air de penser à ses betteraves ni à rien d'autre qu'à ses paroles.
« Tu dis qu'il était pieds nus ?» fit Abel, en s'appuyant sur la trémie du moteur et en sortant un paquet de tabac d'une de ses poches de veston.
Sûr et certain.
Ben, ça me paraît de la folie, par le temps qui court.
Ben, c'est bien mon avis.
Tu veux dire que t'as rien remarqué de ton côté ?
Rien.
À part l'évangéliste hier soir.
Et lui, il avait des chaussures, même si elles devaient lui être guère plus utiles que s'il les avait pas eues à ses pieds.
Et puis ça peut pas être non plus mon visiteur de l'autre jour, vu que lui aussi avait des chaussures, bien adaptées celles-là. De toute façon, l'un comme l'autre devait chausser du 42, et c'est visiblement pas une pointure qui correspond à ce que t'as vu.
À moins que tu te sois trompé.
En tout cas, j'ai peur de pas avoir d'explication à te donner.
C'est dingue, comme ça me tourne dans la caboche du matin au soir et même la nuit, dit Gus, sans relever la provocation d'Abel.
Ben, si on devait se faire du mouron pour tout ce qui arrive dans le monde, on n'aurait plus qu'à mettre la clé sous la porte. Et bonsoir, monsieur, dame, dit Abel, tout en se roulant une cigarette.
Je veux bien, moi, mais d'habitude, ici, on a une explication pour chaque chose qui se passe.
À mon avis, c'est justement qu'on n'a pas assez l'habitude qu'il se passe des choses bizarres ou pas.
T'as qu'à te concentrer sur ton travail et tu verras que tout rentrera dans l'ordre. C'est ça qu'il faut que tu fasses, et sans perdre de temps. Sinon, tu vas avoir ce genre de maladie qui s'attrape quand on réfléchit trop et qui se guérit pas avec de l'aspirine.
C'est ce que je suis censé faire, on dirait.
Tu ferais mieux de rentrer te mettre au chaud en plus. T'as l'air drôlement enrhumé, dis-moi.
Bon, ça passera.
Fais gaffe, c'est rien de bon quand le mal descend sur la poitrine, dit Abel en allumant sa cigarette.
Je me suis toujours débrouillé.
Bah, je disais comme ça, hein.
Bon, rien d'autre à me dire?
Non, faut que je retourne au boulot. Je passerai te voir demain,
si tu veux.
Il fut un temps où Abel aurait invité Gus à boire un coup de rouge. Il fallait croire que les choses avaient changé entre eux et que les relations n'étaient plus aussi simples qu'avant. Cet Abel-là ne ressemblait pas vraiment à celui que Gus avait connu, a préféré continuer de travailler plutôt que d'aller s'en jeter un quand une occasion se présentait. Jusqu'ici, les deux hommes ne s'étaient jamais vraiment brouillés, et c'était pas une mince performance quand on les connaissait. Il n'y en avait pas un de plus sociable que l'autre, et il faut reconnaître que le véritable tour de force, c'était qu'ils arrivent à faire plus que de se supporter. Abel était plutôt taciturne, avec des mystères dans la tête, certainement comme tout le monde, mais pas du genre à livrer ses états d'âme. D'une certaine façon, sans le vouloir, il avait déjà révélé un bout de peau sous son armure, un jour de juin où Gus était descendu à pied jusque chez lui pour chercher la botteleuse qu'ils avaient achetée ensemble, il y avait plus de 10 ans de ça. Comme c'était trop bête de posséder chacun une machine qui ne servait qu'une fois l'an, ils avaient fait l'acquisition d'une classe d'occasion, une bonne machine, qui crachait des bottes régulières d'une 20aine de kilos, semblables à des gros sucres blonds. À l'époque, Gus était arrivé à la ferme d'Abel, qui était occupé à lire un bout de papier assis sur les marches devant sa maison, tellement absorbé par sa lecture qu'il n'avait pas immédiatement décelé la présence de Gus.
« Salut Abel !» avait dit Gus, suffisamment loin de lui pour ne pas avoir l'air de l'espionner.
Abel n'avait pas répondu tout de suite. Il avait replié le papier en 4e vitesse, puis l'avait fourré dans une poche de sa veste. Ensuite, il avait fait mine de se frotter les yeux. Et Gus avait cru voir un peu de sueur sur le bout de ses doigts. On était en juin. « Putain de soleil !» avait dit Abel en regardant droit devant lui, là où Gus n'était pas.
« Ouais. Mais le bon côté des choses, c'est qu'il fait sacrément bien sécher le foin ces temps-ci, dit Gus, gêné.
Bah, c'est bien vrai qu'on peut pas tout avoir. Bah, qu'il voudrait. T'as besoin de quelque chose ?
Abel avait posé la question sans répondre à celle de Gus, puis s'était tourné vers lui en plissant les yeux, comme une chouette gênée par la lumière du soleil.
Je peux prendre la botteleuse demain ? Pas de problème. De toute façon, j'ai pas fini de faucher.
J'ai regardé la météo, ils disent qu'on a quelques jours de beau temps devant nous, dit Gus en regardant le ciel.
Ça devrait largement suffire pour ce qu'on a à faire.
Tu me fais signe quand tu auras besoin de rentrer ton foin.
D'accord, pareil pour toi.
Depuis des années, les deux hommes s'entraidaient pour charger les bottes sur la remorque puis les empiler dans la grange. Seul, ça aurait été une drôle de corvée. À deux, ça l'était beaucoup moins. Les autres paysans du coin avaient résolu le problème depuis belle lurette en s'équipant de ces engins qui font des bottes aussi grosses que des montagnes et qu'ils n'ont plus qu'à transporter avec une fourche hydraulique et à poser au sec dans une grange, sans même descendre de leur tracteur. Pour ça aussi, Abel et Gus étaient restés à l'ancienne heure.
« Je passerai demain pour atteler la botteleuse au Masset, » dit Gus en faisant mine de partir.
« Quand tu voudras. »
« T'as bien 5 minutes pour rentrer boire un coup.
Bah, »« T'as peut-être d'autres choses à faire. »
Le jour où ces choses-là seront prioritaires, t'auras le droit de me le faire remarquer. »«
Alors j'ai 5 minutes. »
Ils entrèrent chez Abel et burent 2 verres de vin. Ensuite, Gus dit qu'il devait s'en aller. Il fallait avoir les idées suffisamment claires pour passer la pirouette dans le foin sec avant d'endainer et de botteler. Abel le raccompagna jusqu'au milieu de la cour.
Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original quand ils s'essuyaient machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelle, que l'automne vient d'arriver. Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais ils faisaient des centenaires à ne plus que savoir en faire s'ils ne vous tournaient pas la tête. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver. Deux chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sortie. Les filles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Après cette pause musicale, nous revenons donc au roman de Frank Buis, Grossir le ciel. Gus n'aurait su dire pourquoi il repensait à cette conversation en remontant le chemin du Brac. Une chose était sûre, il n'était pas plus avancé qu'en le descendant quelque temps avant. Arrivé au croisement, il retrouva les larges traces de pneus. Mars était pressé de rentrer et occupé à surveiller sans arrêt ses arrières, comme s'il s'attendait à ce qu'un nuage lui tombe sur le coin du museau ou qu'un monstre sorte de terre, naseau fumant. Gus décida malgré tout de suivre les traces un moment. Il s'aperçut que les marques de pneus menaient tout droit au moulin du vieux Joseph, près duquel le véhicule s'était visiblement arrêté avant de repartir. Le moulin n'était désormais qu'une ruine qui rappelait à Gus le temps de l'enfance, un temps où Joseph n'était pas encore mort. À cette époque-là, le moulin ne fonctionnait plus vraiment, mais le vieil homme dépannait encore les habitués en mettant sa meule en route pour broyer le grain et le transformer en farine. Le petit Gus pouvait rester des heures à regarder la roue tourner et l'eau glisser sur les larges pales de bois. Il pêchait parfois dans le canal situé au-dessus du moulin, alimenté par la rivière, dans les grands calmes où les poissons-chats et les carpes venaient se nourrir de grains concassés en balançant leurs flancs dans la lumière. Le vieux Joseph laissait faire le gamin de bon cœur. Il lui portait une certaine affection. Gus donnait souvent les poissons qu'il avait attrapés au vieil homme qui les acceptait, finissant immanquablement par raconter qu'une fois il avait épuisé un énorme brochet dans la douve jusqu'au moment de le remonter sur la berge et que le carnassier avait coupé le fil avec ses dents. Joseph assurait qu'il le voyait encore souvent se balader entre deux eaux comme un seigneur. Le vieil homme était d'une ancienne famille de meuniers qui s'était éteinte avec lui. Ici, les lignées, elles, s'éteignent toutes les unes après les autres comme des bougies qui n'ont plus de cire à brûler. C'est ça le truc. La mèche, c'est rien du tout s'il n'y a plus de cire autour. Une sorte de pâte humaine, si bien que l'obscurité gagne un peu plus de terrain à chaque jour. Et personne n'est assez puissant pour contrecarrer le projet de la nuit. En approchant de l'endroit où le véhicule s'était arrêté, Gus vit que ses occupants en étaient descendus puis avaient visité les lieux, ce qui lui parut plutôt bizarre en pleine nuit et par le temps qu'il faisait. Peut-être avait-il eu envie de pisser. Et après tout, qu'y avait-il de plus bizarre que des suceurs d'évangiles prosélytes en pleine cambrousse ? Gus demeura un long moment à regarder les vieilles pierres encore debout, les murs en partie écroulés et recouverts de mousse, et la roue pourrie par le temps qui partait en lambeaux. Un filet d'eau coulait encore dans le canal, mais il n'y avait plus le moindre poisson pour s'y aventurer à cause du manque d'oxygène. Il trouvait sacrilège que personne n'ait entretenu l'endroit pour que la mémoire des temps anciens ne se perde pas définitivement, mais c'était plus compliqué que de goudronner une route électorale. Pour l'heure, il était trop tard. Il n'y avait plus rien à sauver. Pas plus les quelques ardoises qui tenaient encore sur le toit comme par miracle que les poutres qu'on voyait sortir des murs défoncés du moulin. L'idée du temps qui passe ne faisait pas vraiment de bien à Gus. Quelque chose comme de la nostalgie et de la mélancolie qui le dissuadèrent de pénétrer à l'intérieur du moulin. Alors il contourna les bâtiments, sous le regard du vieux Joseph, qui devait le regarder de par en haut. On était mardi, le jour de la semaine où Gus se rendait au village pour faire ses courses. Il n'avait pas de gros besoins et c'était heureux, parce qu'avec ce qu'il gagnait en vendant ses veaux, il n'avait pas l'occasion de faire souvent des extras. Il ne pouvait guère que s'acheter du tabac, un peu de nourriture, et l'indispensable pour faire tourner la ferme et se payer un verre ou deux au bistrot de Pont de Montvert, précisément le mardi. Gus se dirigea vers la grange, ouvrit les portes en grand et démarra son vieux Massey Ferguson. Le réservoir était presque à sec et il alla faire le plein grâce à une pompe à main accrochée au mur de la grange qui permettait de puiser le gasoil dans une cuve enterrée. Il laissa ensuite le moteur tourner un moment pour le réveiller tout à fait. Pendant ce temps, Gus entra chercher une veste imperméable parce que, même si l'engin ne roulait pas bien vite, il se dit qu'elle lui couperait un peu du vent et du froid. Ce n'était pas le moment d'en attraper davantage sur les bronches. Il saisit un grand sac poubelle vide qui traînait sur une table, le fourra dans une des poches de sa veste et sortit. Le moteur du tracteur était chaud et Gus monta sur le siège qui dégueulait la garniture en mousse à travers le sky beige déchiré. Mars suivit l'équipage jusqu'au chemin d'Abel en aboyant. Puis il retourna se coucher dans la grange au milieu d'un tas de foin où il allait attendre sagement le retour de son maître. Alors que le tracteur progressait, les roues arrière rejetaient des pelletées de poudreuse souillée coincées dans les crampons qui allaient s'écraser contre les garde-boues ou sur la couche de neige tassée recouvrant la route. On aurait dit que Gus semait des graines tombées du ciel pour les récolter à son retour sous forme de fruits gelés. Il agrippait le volant d'une main pendant qu'il protégeait la seconde à l'intérieur d'une des poches de sa veste. Et alternait de temps en temps, afin de ne pas faire geler une plus qu'une autre. Ses cheveux flottaient en arrière et ressemblaient à des touffes de fleurs de maïs agacées par le vent. Une brise glaciale venait lui cingler le visage, et il avait de la peine à garder les yeux ouverts. Par bonheur, aucun véhicule n'eut l'idée de se pointer en sens inverse, car le tracteur occupait toute la largeur de la route. Et Gus n'était pas homme à envisager de mordre le bas-côté au risque de s'embourber. Une fois arrivé au village, Gus s'arrêta devant l'épicerie pour acheter ce dont il avait besoin. L'épicière était une fille d'une quarantaine d'années, mariée à un employé de la scierie Balak. C'était le genre de fille à s'occuper des affaires des autres avant les siennes et à en inventer de nouvelles lorsqu'elle n'avait rien à se mettre sous la dent. En bonne commerçante, elle se sentit obligée de parler à Gus, et lui, pas de répondre. Il voyait bien que ce n'était pas pour prendre de ses nouvelles qu'elle alimentait la conversation, mais selon toute vraisemblance, pour occuper l'espace et contrer le malaise que la présence de Gus lui causait. Il s'en serait passé, des visites hebdomadaires à l'épicière s'il n'y avait pas été contraint. Ben, c'était vrai qu'il ressemblait à un clochard. Mais il n'avait jamais eu de dette, lui, ni fait de mal à personne. Rien qui puisse lui valoir les regards en biais de la commerçante. Les apparences ont la vie dure et on leur fait dire aussi ce qu'on veut bien. Gus en connaissait des tout beaux et des tout propres qui n'avaient pas sa façon de voir les choses et à qui l'épicière devait faire des ronds de jambes. De ça non plus, il n'était pas dupe. Nous avons terminé pour ce soir, Lectures en liberté, une émission réalisée par Frédéric Guillon, et vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Nous nous retrouverons demain pour la suite du roman de Franck Bouys, Grossir le ciel. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.